C'est-à-dire, pourquoi en fait, on doit tout le temps aller à l'école?
Les méthodes de lecture. Et si on en débattait scientifiquement? Pas si simple, alors que justement les études manquent sur le sujet. Deux chercheurs avec nous pour en parler aujourd'hui, Franck Ramu et Roland Guagou. Rue des Écoles, c'est le rendez-vous de l'éducation de France Culture. Attachée de production Geneviève Méric, Vanessa Nadjar à la réalisation et Dophar Guéride à la prise de son. N'oubliez pas le podcast sur franceculture.fr et un grand merci à tous les auditeurs nombreux qui nous font part de leurs commentaires à la page de Rue des Écoles. Vous êtes tous chaleureusement invités à participer. Et donc retour aujourd'hui sur l'éternel débat autour de l'apprentissage de la lecture. Pourquoi le sujet fait-il toujours débat et souvent pour échanger des banalités sur les méthodes globales ou syllabiques? En fait, si les querelles n'ont pas cessé, c'est parce que d'une part le sujet est bourré de non-dits idéologiques et d'autre part parce que nous manquons en France d'évaluations scientifiques satisfaisantes. Le café pédagogique a d'ailleurs été récemment le théâtre d'échanges très vifs sur ce second point. Bonjour François Jarreau.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef donc, du Café Pédagogique. Un mot sur cette querelle.
Alors, gros dossier, grande querelle entre les chercheurs. Ça a commencé par un article sur Stanislas Dehaene. Il y a eu une reprise par Rémi Bricio, qui est un pédagogue plutôt spécialiste d'ailleurs du calcul que de la lecture. Franck Ramu est intervenu avec une certaine virulence en disant qu'il y avait une incapacité des gens du monde éducatif à utiliser la recherche, voire même il a dénoncé l'institution dans cette incapacité. Et enfin, Bruno Suchot est aussi intervenu pour dire qu'on ne consacrait pas assez de temps en fait en classe à l'apprentissage et à la lecture. Donc alors, ça fait quand même beaucoup de choses qui ont été remises en question.
Bruno Suchot, qui est chercheur en sciences de l'éducation, qui dit que le temps moyen consacré en CP à l'apprentissage de la lecture par élève serait de 7 minutes par jour.
Voilà, il y a cette obsession du temps qui revient dans ce débat, parce qu'il y a 7 minutes par jour pour Bruno Suchot, il y a 8 ans de retard pour Franck Ramu, et il y a l'inquiétude des parents, surtout dans l'année de CP, où ils ont peur, ils comptent les jours pour savoir quand leur enfant saura lire.
Une inquiétude tout à fait compréhensible, n'est-ce pas, Franck Ramu? Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences cognitives. Votre laboratoire, c'est l'Institut d'études de la cognition à l'École normale supérieure à Paris. Avec vous et au téléphone, Roland Guagou. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand et vous êtes surtout spécialiste de l'apprentissage de la lecture. Dernier ouvrage en date, Lector et Lectrix avec Sylvie Seb chez Retz. On va poser un petit peu le décor. Pourquoi cette question, l'apprentissage de la lecture et comment reste-t-elle si présente comme une grande question éducative en France? Écoutez ce reportage de TF1.
Re et eux, ça fait... L'éducation nationale a quand même vraiment assisté un bon bout de temps sur la méthode globale et qu'on a vu quand même que ça a fait un peu des désastres chez les enfants. Beaucoup ne savent pas vraiment lire. Puis on a certains en CM1 qui sont encore en train de buter sur plein de mots. C'est quand même très simple d'apprendre aux enfants syllabe par syllabe.
Avec 80 000 exemplaires édités chaque année, Baucher est un best-seller. Mais il y en a d'autres.
Une méthode classique et syllabique.
La bonne méthode de lecture de 1866 est de plus en plus réclamée. De même pour bien lire et aimer lire de 1962, fondée sur l'apprentissage par le mime, l'école d'autrefois séduit.
Alors il y a des grands-parents, bien évidemment, parce que ça leur évoque quelque chose, mais les parents viennent régulièrement. On voit surtout des jeunes mamans qui s'étonnent de la lenteur de l'apprentissage de leurs enfants.
Un engouement souvent mal vu par les enseignants.
Je pense que c'est effectivement extrêmement perturbant d'avoir plusieurs méthodes de lecture et plusieurs façons d'appréhender la lecture pour les enfants. La méthode Baucher, si on parcourt un peu ce livre, il y a plein de mots qui sont utilisés qui n'existent plus dans la vie quotidienne des enfants aujourd'hui.
Entends-tu
ces petits bruits
bizarres dans la nuit, le plafond...
Non, le plan.
Le plan chez...
Et à la fin, c'est un extrait du film « Être et avoir ». Mais sur ce reportage de TF1, ce qu'on constate, c'est que l'apprentissage de la lecture et la méthode Baucher, c'est devenu un vrai marronnier. François Jarreau.
Alors, c'est vrai que c'est une question qui est à plusieurs niveaux, hein, l'apprentissage de la lecture. Ça a été une question, malheureusement, c'est une question qui a été très politisée. Il faut se rappeler les années 2006-2007, Gilles de Robien, ministre qui utilise l'enseignement de la lecture pour détourner un peu l'attention des coupes budgétaires qu'il pratique dans l'éducation et qui en fait un objet politique dont les instituteurs et les professeurs des écoles ont quand même énormément souffert. C'est ensuite une question sociale, c'est peut-être ça qu'on oublie le plus souvent, c'est qu'en fait, ça fait plus d'un siècle qu'on pose la question de l'apprentissage de la lecture, mais on la pose souvent avec de mauvaises questions, parce que la question, c'est pas seulement la bonne méthode, la question, c'est surtout l'apprentissage de la lecture dans certaines catégories de la population. Il y a des catégories de la population où la question de l'apprentissage ne se pose pas. Et il y a des catégories de la population où elle se pose. C'est une question que Binet, il y a un siècle, a déjà affrontée. C'était un grand psychologue du tournant de la fin du 19e, début 20e siècle, qu'il a déjà eu à affronter. Pourquoi les enfants d'ouvriers ont du mal à apprendre à écrire et à lire 20 ans après l'école de Jules Ferry? Donc il y a cette dimension-là, il y a la dimension de la recherche, et puis il y a la dimension passionnelle des familles, parce que c'est une immense joie pour les enfants d'apprendre à lire et à écrire, et c'est une immense joie, bien sûr, pour les parents d'apprendre à lire et à écrire. C'est une immense inquiétude quand ils voient que ça arrive trop tard. Même parfois, c'est aussi une inquiétude quand ça arrive trop tôt, apparemment.
Inquiétude et joie, sentiments mêlés autour de l'apprentissage de la lecture, donc. Roland Guagou, ça fait très longtemps que vous travaillez sur ce sujet. Est-ce que vous le percevez aussi comme un sujet idéologique, idéologisé, et pour peut-être prolonger ce qu'a dit François Jarrot, est-ce que la méthode globale, ce serait un truc de gauche, et la méthode syllabique...
J'ai pas dit ça.
Un truc de droite. Oui, mais c'est perçu comme ça par beaucoup de gens.
Oh ben, certainement pas. Cette dichotomie est complètement fausse, complètement erronée. Non, je pense que c'est un sujet complexe sur lequel se mêlent les préoccupations des familles que je comprends parfaitement. On a envie que son enfant débute bien à l'école primaire parce que beaucoup de choses vont en dépendre. Donc là, le marché éditorial du parascolaire est énorme, vous le savez bien. Les cahiers de vacances se vendent très très bien.
Ah bah, dès la maternelle.
Tout le monde veut que son enfant apprenne bien et essaye de l'aider. Donc là-dessus, rien de surprenant, ça me paraît assez normal. C'est peut-être amplifié sur cette question de la lecture parce que justement, le débat est assez confus et des choses assez contradictoires sont dites. Donc chacun essaye de renforcer le travail familial. Mais si je peux me permettre, il me semble que le débat est d'autant plus confus que justement, comme on manque cruellement de données avérées, de données scientifiques sur l'efficacité des pratiques pédagogiques réalisées en classe, comme on manque de ces données, pour le coup, ça laisse libre cours aux thèses les plus extrêmes et les plus alarmistes dans tous les sens, et notamment au prix de descriptions assez fausses de ce qui se passe aujourd'hui dans les classes. Quand on dit qu'aujourd'hui, encore, la méthode globale fait des désastres, désolé, mais tout ce qu'on observe, nous, en classe, montre qu'il n'y a absolument plus de méthode globale dans les classes françaises. Donc là, il y a beaucoup d'inquiétudes qui peuvent être excessives.
On va y revenir aux méthodes employées dans les classes. Franck Ramu, c'est un constat que vous partagez. L'absence d'études suffisantes, l'absence d'études rigoureuses sur la question.
Oui et non, c'est vrai qu'en France, il y a très très peu de recherches scientifiques sur l'efficacité des pratiques pédagogiques de manière générale. Très très peu pour dire voire pas du tout. Mais en même temps, on ne peut pas dire « ah ben donc on ne sait rien et on ne peut rien recommander » parce qu'on ne peut pas ignorer que de telles recherches ont été conduites à l'étranger et on ne peut pas faire comme si on ne savait rien et comme si les Américains et les Anglais n'avaient pas travaillé. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, en France, on se comporte un petit peu trop en isolation, en autarcie totale du reste du monde, en faisant croire qu'on ne sait rien et que donc on ne recommande rien.
Alors, cher professeur, que sait-on ?
Non, on sait plein de choses. On sait qu'effectivement, d'abord, la question de l'apprentissage de la lecture, c'est pas juste une question de milieu social. C'est pas juste les enfants d'ouvriers qui ont du mal à apprendre à lire et les enfants de cadre, la lecture leur viendrait naturellement comme par magie. Non, c'est pas comme ça. La lecture, ça nécessite un enseignement particulier de la part d'enseignants qui sont formés à cet effet, qui ont des compétences bien spécifiques. Et toutes les manières d'enseigner la lecture ne sont pas égales. Certaines sont plus efficaces que d'autres. Et on a déjà pas mal d'études expérimentales qui ont évalué rigoureusement l'efficacité comparée de différentes méthodes. Et donc, en gros, on sait quand même des choses sur au moins différentes catégories de méthodes dont certaines sont supérieures aux autres.
Lesquelles ?
ce qu'on appelle les méthodes phoniques, c'est-à-dire les méthodes qui enseignent systématiquement, explicitement et intensivement les relations entre les lettres et les sons, qui sont supérieures aux méthodes qui sont non phoniques, qui inclut celle qu'on appelle globale, mais globale, si vous voulez, c'est un mot qui est trop flou pour être vraiment très utile dans ce débat. Mais donc toutes les méthodes qui, soit n'enseignent pas du tout les relations entre les lettres et les sons, soit les enseignent d'une manière un petit peu aléatoire, non systématique, si vous voulez.
Donc il faut commencer par bien enseigner la reconnaissance phonologique. Moi, c'est les mots, les termes que je rencontre habituellement, les correspondances graphème-phonème, c'est cela ?
Exactement, les correspondances graphème-phonème, et donc apprendre à l'enfant à déchiffrer les mots, et donc tous les mots qu'il découvrira par la suite, même ceux qu'il ne connaît pas encore.
Quelles sont vos connaissances, Franck Ramu, quant à la capacité des enfants à apprendre à lire, à quel âge en général, ou plutôt à quoi reconnaît-on qu'un enfant est prêt, que son cerveau est prêt à apprendre à lire ?
Bon, ça, c'est une question compliquée parce que ça varie selon les enfants. En gros, vers 6 ans, la plupart des enfants sont prêts. C'est ce qu'on constate en CP quand même. Ils arrivent tous à apprendre à lire
à peu près en CP.
Mais certains sont un petit peu en retard dans leur développement. Ça correspond à une certaine maturité, si vous voulez, des capacités de langage, à la fois du vocabulaire, de ce qu'on appelle la conscience phonologique, qui est la capacité à conceptualiser les unités élémentaires de la parole, à y prêter attention et à les manipuler mentalement, et donc qui va conditionner la capacité à les associer aux lettres. Donc voilà, ce sont essentiellement des compétences de langage et des compétences métacognitives qui vont permettre à l'enfant d'aborder cet apprentissage. Et donc voilà, chaque enfant a un peu son rythme d'apprentissage. À l'âge de 6 ans, une majorité sont prêts, mais il y en a toujours une minorité qui sont un petit peu en retard. Évidemment, il y a aussi une minorité qui sont prêts dès 4 ans. Forcément, quand on fait de l'enseignement en classe entière pour une grande population, on est obligé de faire un compromis qui convient à la majorité. Et je pense que 6 ans, c'est à peu près correct.
On va revenir au manque d'études scientifiques, Roland Guagou, mais vous allez nous commenter l'intervention de Franck Ramu. Mais il n'y a pas seulement la méthode employée, il y a aussi la manière dont le professeur se comporte en classe. Et ça, ce n'est pas seulement une méthode, c'est aussi une façon d'appliquer les méthodes.
Parlons tout d'abord des méthodes, puisque Franck Ramu, à juste titre, a dit que bien sûr on sait des choses, et ces choses-là, je les connais, je les prends comme acquises, notamment depuis les grandes synthèses américaines du début des années 2000. Au passage, ce que vient de dire Franck Ramu sur la supériorité des méthodes phoniques sur les non-phoniques, je le partage tout à fait, et c'est tellement consensuel que ça a été écrit dans le rapport de la conférence de consensus organisée par le ministère de la Recherche, et donc on a un texte de 2003 qui était un texte très consensuel sur le plan scientifique, qui réunissait des psychologues cognitivistes comme Michel Fayol, des didacticiens, des pédagogues, et là-dessus, on est d'accord sur le fait que ces méthodes phoniques qui enseignent explicitement le code, les correspondances entre les lettres et les sons, sont nécessaires à nos enfants. Donc là-dessus, pas de doute, on est d'accord. Mais si on prend l'étude que nous sommes en train de réaliser sur le terrain avec un échantillon représentatif de 135 classes de cours préparatoires, les méthodes non phoniques dont parle Franck Ramu représentent deux manuels. Sur les 30 utilisés, en fait, deux classes sur les 135 que nous étudions.
Alors, si c'est pas. Excusez-moi, mais pour être très clair, parce qu'on n'est pas tous enseignants en cours préparatoire, loin de là. Donc, qu'est-ce que c'est si ce ne sont pas des méthodes globales ?
Les non-phoniques, oui. En gros, c'est des variantes des méthodes globales. Là-dessus, je suis d'accord avec Franck Ramu. Hein. C'est des gens qui étudient les correspondances de manière très tardive et très aléatoire.
Et qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On reconnaît des mots ?
Voilà, il y a beaucoup de mots qui sont identifiés ou en fait qui sont identifiés par ceux qui savent déchiffrer dans la classe et puis on passe un petit peu sous silence la manière dont les enfants arrivent à déchiffrer. Donc là-dessus, on est d'accord que ça c'est plutôt à éviter et que c'est encore une fois largement consensuel depuis, pour moi, depuis les programmes de 95. Ce qui est compliqué et que les travaux anglo-saxons ne nous aident pas à éclairer, c'est dans les méthodes phoniques, dont je redis qu'aujourd'hui, sur les 135 classes qu'on étudie, elles sont à l'œuvre dans 130, donc qui sont archi-dominantes, il y a en réalité une assez grande diversité. Entre ceux qui enseignent les correspondances entre les lettres et les sons très tôt et très vite, sur un tempo rapide, par exemple en novembre, certains ont étudié 25 correspondances entre les lettres et les sons, alors que d'autres vont plus doucement et en novembre n'en ont étudié qu'une demi-douzaine ou une douzaine. Donc là-dessus, qui a raison, qui a tort, ceux qui vont plus vite ou ceux qui vont plus lentement? Première question de recherche. Deuxième question de recherche, doit-on donner à lire à des enfants des phrases qui soient entièrement déchiffrables, 100% déchiffrables? C'est la thèse des méthodes syllabiques. Interdit de donner à lire aux enfants des phrases qui soient constituées par des mots qu'ils ne puissent pas totalement déchiffrer. Alors évidemment, ça donne des phrases bizarres, parce que quand on a étudié qu'une vingtaine de correspondances, on est obligé de fabriquer des phrases qui sont, on va dire, des prétextes à la lecture.
Par exemple, donnez-nous un exemple.
Le rat a vu le chat, il fuit, le chat a léché le sirop, il a volé la morue, Léo l'a mis dans la rue. Si vous écrivez ces phrases-là, c'est simplement parce qu'elles sont 100% déchiffrables lorsque vous êtes dans la huitième leçon et que vous avez étudié avant le re, le e, le a, le, mais pas le reste. Voilà, c'est tout. Donc, soit vous allez vite et vous donnez du 100% déchiffrable, soit vous allez un peu plus lentement, mais vous donnez quand même du très déchiffrable, soit vous allez encore plus lentement et vous donner des supports qui sont pour une part déchiffrables, pour une autre part qui comportent des mots très fréquents que les élèves vont connaître sur le plan, comment dire, orthographique, c'est-à-dire qu'ils vont savoir que le mot avec et EST, même si on n'a pas appris à le déchiffrer, il se lit et il s'orthographie EST. Donc les maîtres, la plupart du temps, trouvent une sorte de compromis entre une grande part de mots déchiffrables, une petite part de mots qui sont connus comme des mots entiers. D'ailleurs, au passage, les programmes de 2008 et les circulaires de 2006 permettaient cette chose-là. Et d'autre part, des mots que les enfants ne connaissent pas encore et que le maître leur donne lorsqu'il les découvre dans un texte. Donc, le gros débat aujourd'hui en France, c'est un débat sur le dosage. Mais l'accord, il est fort avec ce qu'a dit Franck Ramus tout à l'heure. Il faut cet enseignement systématique et explicite des correspondances graphème-phonème. Alors, ça ne veut pas dire que tous les maîtres le font, mais ça veut dire qu'au moins les chercheurs sont d'accord là-dessus. Et ce qu'on essaye de trouver aujourd'hui, c'est de voir si on peut répondre à quelques-unes de ces questions sur les dosages, sur les tempos, sur les proportions, et, pour être plus clair encore, sur le fait qu'on ne fasse que de l'enseignement du déchiffrage, ou qu'on doive et qu'on ait intérêt à l'associer à de l'enseignement de l'encodage, et pas seulement du décodage, en d'autres termes, qu'on fasse beaucoup d'activités d'écriture, tout autant que d'activités de lecture. Ça, on le voit dans notre étude, beaucoup de maîtres consacrent beaucoup de temps à l'encodage, certains y consacrent 0 minute, donc là il y a des contrastes énormes entre les maîtres. Et la troisième zone de contraste, c'est le fait que les maîtres travaillent ou pas sur ce qu'on pourrait dire la langue française, et notamment le vocabulaire. Parce que si les enfants comprennent mal, c'est notamment parce qu'ils ont une base lexicale trop faible, et que très vite, même s'ils savent déchiffrer, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent parce qu'ils ne connaissent pas les mots qu'ils déchiffrent. Certains maîtres retardent cet enseignement systématique au cours élémentaire, d'autres essayent de le mener de front au cours préparatoire. J'aurais tendance à penser qu'ils ont raison, mais là encore, c'est une intuition. Il nous faut des faits plus solides pour savoir quelles sont les meilleures proportions entre ces différents domaines d'enseignement qui peuvent être conduits simultanément ou successivement.
D'où votre étude, mais on va y revenir.
D'accord, c'est un peu rébarbatif, le subjonctif en apéritif. Passons sur le mode impératif, le plus que parfait, le pronom relatif. Adjectif, possessif, possession. Mettez ces nos voleurs, montons son. Exemple facile, c'est son tonton. Qu'est ton maçon, lui qui t'a bâti ta maison. Un cheval au pluriel, c'est chevaux. Mais des batailles font pas des bateaux. Exception faite pour aller au bal, danser quel régal dans tous les carnavals. Avez-vous bien étudié la grammaire, les règles littéraires?
Chanson plus, bifurée une chanson sur la grammaire choisie par notre réalisatrice Vanessa Nadjar. Et nous parlons de la lecture, de l'apprentissage de la lecture et du manque relatif d'études françaises. Mais Roland Guagou était en train de nous raconter justement qu'il menait une grande étude sur la question. Et Franck Ramu, lui, nous disait que des études existent tout de même à l'étranger, particulièrement dans le monde anglo-saxon, des études éclairantes sur la manière dont les enfants apprennent mieux, bien à lire. Toutefois, ce qu'on constate aussi en France, d'après les études menées sur les élèves, François Géraud, c'est que ces élèves ne sont pas franchement de mauvais lecteurs, car ils déchiffrent mal. Leur problème, c'est plus la compréhension. Ça, c'est l'étude PISA de l'OCDE qui nous l'apprend, et une autre étude qui s'appelle PIRLS, dont on a pris connaissance en décembre 2012, étude menée en 2011 sur des élèves de CM1, dans laquelle la France voyait ses résultats baisser considérablement, et surtout parce que les élèves ne comprennent pas de simples textes informatifs, en tout cas, ils sont trop nombreux à ne pas les comprendre. François Géraud.
Alors là, ce que vous introduisez, c'est la durée. C'est-à-dire qu'effectivement, apprendre à lire, c'est pas simplement apprendre à lire en CP. Apprendre à lire, ça dure pendant toute la scolarité, au moins jusqu'à la fin du primaire. On voit bien en Afrique, par exemple, où pour tout un tas de raisons, des enfants sont retirés de l'école, ils perdent la lecture. Ça peut se perdre très facilement. Donc il y a une durée, et dans cette durée, il y a des apprentissages à faire. Et dans ces apprentissages, c'est clair que les apprentissages d'écriture, c'est ce qu'avait montré Ouzoulias, qui est un chercheur qui est malheureusement disparu il y a peu de temps. Roland Guagou y a fait allusion tout à l'heure. Les activités d'écriture sont très importantes. La lecture, c'est un acte social. C'est pour ça que je crois qu'on ne peut pas éliminer la sociologie de la lecture, comme ça a été dit tout à l'heure. Il y a bien une sociologie de la lecture qui existe.
Il y en a une, sans aucun doute. Ce n'est pas le seul facteur en jeu.
Non, ce n'est pas le seul facteur, mais c'est quand même un facteur qui pèse extrêmement lourd et qui fait que si les enfants ne sont pas dans des stratégies, dans des habitudes de lecture en famille, c'est quand même très difficile d'apprendre à lire. C'est une pratique sociale. Il faut que l'école fasse de la lecture, introduise l'enfant dans cette pratique sociale. Et c'est un peu ce que Roland Guagou disait tout à l'heure avec les activités d'écriture.
Mais c'est une question que je trouve passionnante, Franck Ramu, de savoir comment des apprentissages, et peut-être vous, en tant que chercheur qui s'intéresse à la façon dont notre cerveau fonctionne, vous pouvez nous répondre, comment des apprentissages peuvent s'ancrer vraiment profondément. On sait qu'il y a beaucoup de mal-lisants en France, parce qu'on ne parle pas vraiment d'analphabètes, mais plutôt de gens qui ont des grosses difficultés parce qu'ils ont oublié.
10%.
Oui, je crois pas trop à l'oubli de la lecture. Pour moi, c'est un peu comme la bicyclette. Une fois qu'on a bien appris, on a appris pour la vie.
C'est ce qu'on voit en Afrique, hein, par exemple.
J'ai pas vu les études. Donc après, vous parlez d'études où effectivement on regarde les difficultés de lecture bien plus tard que le CP. Et donc effectivement, quand on arrive en CM1 et a fortiori en 5e ou en 4e, quand on fait l'étude PISA, évidemment le déchiffrage est un stade qui est totalement dépassé. Et les seuls problèmes qui persistent sont des problèmes en compréhension qui découlent en fait de problèmes de compréhension déjà du langage oral. Si vous voulez, la compréhension en langage écrit va pas pouvoir dépasser la compréhension en langage oral. Mais donc, évidemment, c'est regarder le problème à un niveau différent de celui du CP, où effectivement, le but de ce qui se passe en CP, c'est de mettre le pied à l'étrier aux enfants et de leur donner le plus vite possible les outils qui vont leur permettre de lire tout seul et d'apprendre des mots en lisant.
Mais c'est vrai que ce qu'on reproche à la méthode syllabique ou aux méthodes trop syllabiques, c'est de priver les enfants du sens de la lecture. Je reprends un peu.
Oui, mais ça, c'est faux. C'est faux.
Oui, pour vous, c'est faux.
Disons, c'est caricatural. Je trouve que les détracteurs des méthodes syllabiques ont beaucoup trop tendance à les caricaturer et à en faire des méthodes où on peut lire que des mots qui, comme pipi et caca. C'est un
Merci
peu absurde.
Pour ces exemples.
Je vous en prie. C'est pas tout à fait correct de le représenter comme ça. Et il y a des méthodes syllabiques qui ont un vocabulaire tout à fait riche et qui proposent aux enfants des phrases à lire qui les intéressent. Donc, faut pas du tout opposer le débat comme ça.
Mais très concrètement, pour vous, d'après vos connaissances scientifiques, une méthode un peu mixte qui introduit dès le départ des mots outils, c'est comme ça que ça s'appelle dans les manuels de lecture, est-ce que ça peut brouiller pour les élèves des apprentissages? Est-ce que ça peut freiner certains d'entre eux dans un bon apprentissage de la lecture?
Eh bien, je ne sais pas. parce que les recherches n'ont pas été conduites. Et sur ce point, je rejoins tout à fait Roland Guagou sur l'intérêt de mener des recherches qui permettent d'évaluer des hypothèses aussi précises que ça et de regarder l'impact de l'utilisation de mots-outils qui ne peuvent pas être déchiffrés à ce stade-là, l'impact de l'écriture ou pas. Monsieur Jarrot a affirmé que les pratiques d'écriture étaient très importantes. On ne le sait pas parce qu'on ne l'a pas évalué, donc évaluons-le. J'espère que Roland le fait. Pareil sur la question des approches analytiques versus synthétiques. Il faut savoir quand on dit méthode syllabique, on veut dire méthode phonique synthétique, c'est-à-dire qui part des petites unités pour former les grosses, alors qu'il y a les approches analytiques qui partent des grandes unités pour les décomposer en petites. Et puis les méthodes mixtes sont censées être un petit peu entre les deux. Là aussi, sur l'efficacité comparée des méthodes analytiques et synthétiques, on a des éléments, mais on ne peut pas dire qu'on puisse totalement trancher de manière satisfaisante. Donc ça aussi, j'espère que c'est quelque chose qui est évalué dans l'étude de Roland Guagou.
On en vient au vrai sujet de cette émission. Ça fait des décennies qu'en France, on s'écharpe sur un sujet sur lequel la science n'a pas tranché, pas parce que c'est impossible, parce que les études n'ont pas été menées.
Visiblement, en France, on produit un discours sur l'éducation, mais on ne met jamais ce discours à l'épreuve des faits, alors qu'on connaît toutes les méthodes disponibles pour le faire. Ce sont des méthodes expérimentales où on teste les apprentissages des enfants avant une méthode, après une méthode, et puis on regarde s'ils progressent et on compare s'ils progressent plus en ayant suivi telle méthode ou telle autre. Et dans méthode, j'englobe l'ensemble des pratiques pédagogiques, évidemment la manière dont l'enseignant se comporte en classe et dont il tient sa classe et dont il communique avec les enfants. Ça compte aussi et ça doit faire partie intégrante de ce qu'on évalue.
Roland Guagou, petit retour bref sur l'étude que vous menez. Décrivez-la nous.
Nous avons donc 135 classes, ce qui représente un petit peu moins de 3000 élèves. Donc 135 maîtres volontaires qui ont accepté qu'on évalue leurs élèves, alors avec des outils qui sont vraiment des outils très rigoureux, que nous partageons d'ailleurs avec les psychologues de la cognition.
Et quand pourrez-vous nous donner les conclusions de cette étude ?
Vous avez compris que les élèves sont encore en train d'apprendre et que nous allons les évaluer au mois de juin. Donc, une fois que nous les aurons évalués au mois de juin, nous allons faire toute une série de calculs statistiques très compliqués et très longs pour essayer d'interpréter les progrès des élèves. Et pour les interpréter, évidemment, on utilise des modèles statistiques qu'on appelle multivariés, multiniveaux, dans lesquels on met toute une série de caractéristiques qui pourraient, comment dire, influencer les performances finales. On va mettre les caractéristiques de l'âge des enfants, de leur origine sociale, de la langue parlée à la maison, mais on va aussi mettre toute une série de caractéristiques de leur contexte d'enseignement. Est-ce que ce sont des élèves faibles qui sont dans des classes faibles ou est-ce que ce sont des élèves faibles qui sont dans des classes fortes ? Donc, on va caractériser les niveaux scolaires des classes. Puis, on va prendre en compte les caractéristiques des enseignants. Nous avons choisi de prendre des enseignants expérimentés qui aient au minimum 3 ans d'expérience du cours préparatoire. Puisque ce qu'on voulait savoir, c'était si leur choix didactique influençait les apprentissages des élèves. Et on voulait pas avoir juste une comparaison entre le fait des maîtres expérimentés étaient meilleurs que des maîtres novices.
Roland Guagou, voilà. on a plus beaucoup de temps. Juste, quand est-ce que vous pourrez revenir nous en parler dans Rue des Écoles ?
Bien, je pense que nous aurons des résultats à l'automne, le temps de faire le traitement de toutes ces épreuves. Dites-moi juste une chose, c'est que ce que nous faisons, c'est que nous contrôlons très précisément les pratiques pédagogiques des maîtres. C'est-à-dire que nous avons passé 3 semaines complètes dans chacune des 135 classes, ça veut dire qu'il y a 140 enquêteurs dans cette étude, qui ont passé 3 semaines intégrale à enregistrer, filmer, coder les pratiques pédagogiques, ce qui veut dire que les questions que posait Franck Ramus tout à l'heure, oui, nous aurons des éléments. À quelle vitesse ont-ils étudié le code ? Combien de temps ont-ils passé à faire écrire leurs élèves ? Ont-ils procédé de manière analytique ou synthétique ? Voilà, ce seront nos variables. Nous contrôlerons donc les pratiques pédagogiques et nous verrons à quoi nous pouvons imputer l'efficacité différentielle de leur pédagogie.
Merci beaucoup Roland Guagou, merci Franck Ramu. François Jarrot, un mot très bref sur le forum des enseignants innovants, c'est au mois de mai à Bordeaux.
Alors 16-17 mai à Bordeaux, une centaine d'enseignants réunis, choisis par les associations d'enseignants et par le Café Pédagogique, qui pendant 2 jours vont travailler ensemble pour créer des outils d'enseignement et pour se mettre en réseau et pour faire avancer l'école.
On peut encore s'inscrire pour participer à cet événement ?
Alors on peut voir l'exposition des projets, oui, on peut le faire à Bordeaux dans l'hôtel de région.
Merci beaucoup et on continue sur la lecture, les lectures jeunesse sur France Culture avec le temps buissonnier et c'est bien sûr Aline Payet. Bon après-midi.